Je me suis dit que c'était bien, que les choses changent un peu.
Anything is possible with hard work.
You become what you believe.
Quand on décide de changer sa vie, alors on est entrepreneur. En réalité, c'est pas une question de monter une boîte ou pas, c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie.
C'est une marque iconique de la cosmétique qui a révolutionné le soin grâce à une technologie unique à base d'extrait de raisin. En plus de 25 ans d'existence, Caudalie a su s'imposer dans le monde ultra concurrentiel de la beauté en France et à l'international. Caudalie, l'histoire d'une beauté clean et écolo avant l'heure. On en parle avec sa cofondatrice Mathilde Thomas. Bonjour Mathilde, merci d'être dans Power Girl. Alors nous sommes ici dans ton bureau, dans tes bureaux parisiens. Alors évidemment des produits Caudalie partout, une petite vigne.
Oui.
qui rappelle l'essence de la marque Caudalie. Alors on va rentrer dans cette histoire Caudalie qui commence en 1995, je le disais. Mais avant cela, j'avais envie que tu nous parles un peu de la Mathilde enfant. Qui était Mathilde Cathiard, hein? Un petit flashback.
Alors j'étais Heidi dans la montagne, j'habitais à l'époque dans le Vercors et j'étais tout le temps fourrée dans les bois avec mes chiens. J'étais une grande rêveuse. Écoute, je pensais pas un jour monter une marque dans les cosmétiques. J'ai eu une enfance très préservée.
Alors, tu n'y pensais pas, mais en même temps, quand on voit ton parcours, ton univers familial, tu as grandi dans un environnement très entrepreneurial. Ton père, fondateur de GoSport. Donc, il y avait quand même cet univers déjà entrepreneurial.
Oui, c'est vrai que c'est de famille. Mes grands-parents ont monté une petite supérette à Saint-Martin-du-Riage après-guerre, qu'ils ont fait grandir. Et puis, ma mère a commencé à travailler avec mon père. Effectivement, mon père a repris les affaires de son propre père. Donc, c'est une histoire d'entrepreneur en couple.
Oui, c'est ça la spécificité. On en reparlera parce que tu as cofondé Caudalie avec ton fiancé, petit ami même de l'époque et mari aujourd'hui. Qu'est-ce que t'ont appris tes parents et tes grands-parents, justement, sur cette dimension entrepreneuriale? Quels sont tes souvenirs de cela? Tu parles souvent de ta grand-mère.
Ils m'ont tout appris. Ils m'ont appris qu'il fallait travailler dur, rester simple, être concentré sur un objectif, ne pas se disperser, aller au bout de son projet, faire ce qu'on aimait, être passionné, mais le faire bien. Et surtout, ils m'ont montré l'exemple. Ils m'ont montré que c'était possible et j'ai eu une chance inouïe de naître dans cette famille où, d'entrepreneurs. Quand tu grandis dans une famille d'entrepreneurs, tu te rends compte que tout est possible. Et ça ouvre des portes, c'est incroyable. Et puis ils m'ont aussi montré que c'était possible de travailler en couple. Il y a quelques règles.
Ça compte beaucoup, tu le dis souvent. Alors, tu nous parlais de cette enfant Mathilde au milieu des montagnes, dans la nature. Au départ, c'est le milieu du parfum qui t'attirait. C'est peut-être ces senteurs que tu pouvais découvrir dans ces plaines.
Oui, la nature m'a dotée d'un bon nez et c'est vrai que j'ai toujours adoré renifler, sentir. Souvent, le samedi, je descendais à la ville, j'allais dans les ancêtres de Sephora et je pouvais passer 2 heures à me faire des blind tests, à sentir les mouillettes et je reconnaissais du coup très bien les parfums. Et quand ma maman amenait des copines à la maison, je reconnaissais systématiquement leurs parfums, ce qui les mettait souvent mal à l'aise. Et donc, j'avais un bon nez que j'entraînais et mon papa m'a dit, Mathilde, écoute... Si tu as un bon nez, il faut que tu en fasses quelque chose. Essaye de travailler dans ce secteur.
Et donc ?
Et donc, j'ai fait mon premier stage en première chez L'Oréal. Il avait un copain qui travaillait chez L'Oréal en Espagne, que j'ai appelé. Et j'ai commencé dans la beauté, pour la marque Cacharel. Anaïs était énorme à l'époque. Et j'ai vu que j'adorais ça, que effectivement c'était ma passion et que je voulais travailler dans les parfums, dans les huiles essentielles. Donc j'ai continué, j'ai ensuite travaillé chez Dragoco, puis Roberté, qui sont des sociétés qui fabriquent des huiles essentielles, qui fabriquent des parfums. Mon nez s'est affiné et je savais que j'allais travailler là-dedans.
mais pas encore où. Alors, Caudalie naît en 95, mais en fait, l'histoire commence en 1993, grâce, là aussi, à ta famille et à ton père en particulier. Oui. Raconte-nous ce qui se passe en 93.
Alors, mon père sait que... On est à la recherche d'un projet avec mon petit copain. On est tous les deux étudiants en école de commerce. On se retrouve parfois le week-end dans la propriété viticole familiale à Smith-Lafitte à Bordeaux, propriété que mes parents ont repris en 1990. Et donc mon père nous propose de temps en temps des projets. Et là, il nous dit, vous avez une équipe de chercheurs de la faculté de pharmacie de Bordeaux qui vient visiter le domaine. Aller les rencontrer parce qu'ils étudient tous les sous-produits de la vigne, les pépins, les feuilles, les sarments. Et en particulier, ils travaillent avec les laboratoires pharmaceutiques Sanofi pour mettre sur le marché un médicament à base de pépins de raisin, d'un extrait du pépin qui s'appelle le polyphénol. Allez voir. Donc on organise cette visite et un des chercheurs, le professeur Vercoteren, qui dirige le laboratoire de chimie des substances naturelles à Bordeaux 2, s'arrête devant la grosse benne de pépins de raisin. On connaît l'histoire et il nous dit « Vous êtes en train de jeter des trésors. Les pépins contiennent les plus puissants antioxydants produits par le règne végétal. » Et là, il nous explique que dans le pépin, la partie astringente, quand on croque un pépin, ce sont les tanins, les polyphénols, et que ces polyphénols sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que la vitamine E pour stopper les radicaux libres. Et les radicaux libres, c'est ce qui est responsable de 4 rides sur 5. C'est ce qui fait rouiller les voitures, c'est ce qui fait brunir les fruits, et c'est ce qui nous fait vieillir, c'est ce qui nous oxyde. Et donc là, on lui dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas dans les produits cosmétiques si c'est tellement efficace ? Et il nous explique qu'ils sont extrêmement instables et que si on s'amusait à les extraire des pépins et ensuite à les mettre dans des crèmes, les crèmes deviendraient rouges au bout de quelques semaines et ce ne serait pas possible. Mais il nous dit de venir à la faculté de pharmacie et c'est là où on a beaucoup de chance parce que le professeur trouve une façon de stabiliser les polyphénols de pépins de raisin, ça devient très technique, en les stabilisant avec un acide gras. Et puis là, on le convainc de créer une société et on s'associe et on démarre Caudalie.
Alors tout ça, ça se passe quoi, en l'espace d'un an de, comme, vous vous êtes tout de suite dit quand vous êtes encore, quand il vous fait découvrir cela en 93, dans le domaine familial, vous dites tout de suite, tiens, il y a un truc à creuser. Enfin, comment ça se passe à ce moment-là? Parce que vous aviez envie d'entreprendre. Ton Marie, petit ami de l'époque avait rêvé d'entreprendre, lui, mais toi?
Bertrand, c'était un entrepreneur au fond de lui. Donc, il voulait absolument monter sa boîte. Il avait compris que c'était là-dedans qu'il s'épanouirait. Et donc, et moi, je voulais absolument travailler dans les parfums, les cosmétiques. Mais c'est vrai que cette rencontre a été l'étincelle qui a fait qu'on s'est dit on peut travailler ensemble tous les deux et on peut monter notre boîte. Donc, on rencontre Vercoteren, le professeur, dans les vignes pendant les vendanges en 1993. À l'époque, on est encore étudiants, tous les deux. Et on termine nos études en 94. Et c'est là qu'on dépose, en août 94, les statuts de la SARL, les Caudalie à l'époque. Après, il nous faut un an pour mettre la molécule brevetée du professeur Vercoteren dans des produits cosmétiques qui vont voir le jour mi-1995.
Alors, tu dis les Caudalie. Déjà, d'où vient le nom Caudalie?
On ne savait pas comment appeler cette marque. Ma mère me disait « Appelle ça Mathilde Thomas, comme Estelle Auder. » Okay. Et on s'est dit « On va appeler ça Cellule. » Et puis personne ne comprenait. On est passé par beaucoup de stades. Et puis encore mon père m'a dit « Mais vous savez qu'il y a un terme œnologique qui veut dire en fait l'unité de mesure de la longueur en bouche d'un vin. » Quand on boit un verre de vin, on compte les caudalies du vin. Et plus un vin a de caudalies, plus il est bon. On a trouvé que c'était à la fois féminin, français, et que ça avait un lien avec la vigne et le raisin. Et donc, Caudalie.
D'où le nom. Ouais. Alors, les débuts, les premiers produits, il y en a combien en 95 quand vous lancez la marque?
Alors, moi, j'ai tout de suite voulu lancer deux crèmes antioxydantes. Il y en a une qui était hydratante antioxydante, l'autre qui était anti-ride antioxydante. Et le professeur Vercoteren, qui avait fait donc toutes ses études avec Sanofi et qui avait participé à l'autorisation de mise sur le marché de Endothelon, qui est le médicament à base de polyphénol pour les jambes lourdes, nous a dit, faites des compléments nutritionnels, c'est ultra important. La beauté, ça vient aussi de l'intérieur. Si une voiture est cassée, c'est bien de réparer la carrosserie, mais il faut aussi réparer le moteur. Donc, on a fait des compléments nutritionnels et deux crèmes.
C'était ultra innovant, les compléments alimentaires. Bon, il y a une marque, oui. Une autre marque, mais je ne sais plus la date. Mais en tout cas, c'était très innovant parce qu'aujourd'hui, on parle d'une beauté holistique et on est complètement là-dedans. Ouais. En 95, oui, c'était quand même relativement nouveau.
On n'a jamais rien fait comme les autres. D'abord parce qu'on était jeunes, naïfs. Et puis ensuite parce qu'on croyait à nos idées et puis surtout à la recherche, à la science et aux innovations du professeur Vercotrenne. Il faut savoir qu'en 95, quand on se lance avec nos produits à base de pépins de raisin, la grande mode, ce sont les cosmétiques à base de collagène bovin. Et la plupart des femmes vont se faire se mettre des crèmes de collagène bovin. Et les très, très fortunées vont dans des cliniques suisses se faire injecter du placenta de mouton. Enfin, tout ça, c'est avant la vache folle, mais les pépins de raisin, tout le monde s'en fiche. On a toujours fait tout à contre-pied.
Oui. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la clean beauty aussi. Hein. C'est tout ça, cette dimension écologique. On en parlera tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, tu vas un cran au-dessus. Mais c'était déjà innovant. Alors, ces produits, 95, lancement, nouvelle marque, c'était un sacré challenge parce que, évidemment, on ne vous a pas attendu. Il y a de grands groupes, dont certains que tu connaissais puisque tu avais fait des stages chez eux. Comment on arrive, nouvelle marque, sur un marché des cosmétiques quand même, déjà à l'époque, assez saturé?
Ça a pris 25 ans, donc ça ne s'est pas fait en un jour. On a bossé dur, on a eu de la chance et on a eu surtout une molécule innovante et efficace, je dirais. Si on n'avait pas rencontré ce professeur et si on n'avait pas eu ce brevet de polyphénol stabilisé, Caudalie ne serait peut-être pas là aujourd'hui.
Mais comment vous allez faire connaître la marque? C'est aussi ça, c'est
ça
parce que déjà vous faites un choix, et ça c'est intéressant, vous choisissez de vous faire distribuer uniquement dans les pharmacies. Pourquoi ce choix?
On a regardé, quand on était en dernière année d'école de commerce, on a étudié tous les réseaux de distribution. La parfumerie était inabordable, il fallait de gros budgets qu'on n'avait pas. La grande distribution, notre produit était trop technologique, et coûtait trop cher, et puis il fallait de gros moyens qu'on n'avait pas. Après, on a même regardé le porte-à-porte, mais on ne comprenait pas bien. Et ça nous a semblé complètement évident de distribuer un produit qui sortait de la faculté de pharmacie avec un professeur qui en était associé et d'aller le vendre à des indépendants qui étaient pharmaciens. Et on a eu de la chance parce que c'est un réseau intelligent qui s'est vraiment développé. Un réseau où les gens viennent trouver des produits qui sont des solutions à leurs problèmes de peau, où les produits sont abordables. Un réseau sérieux et surtout un réseau où vous devez frapper à la porte des 5000 pharmacies françaises qui sont indépendantes. Il y a peu de regroupements encore dans ce milieu.
Alors justement, au départ, comment vous faites? Vous êtes deux finalement?
On est deux, Bertrand à la fibre commerciale, donc c'est lui qui part avec sa mallette de représentant de commerce et qui va voir les pharmacies une à une. Et puis c'est moi qui vais faire les animations parce que les produits, personne ne les connaît, donc il faut une animatrice sur place qui vend à la consommatrice finale. C'est moi qui m'occupe aussi des vitrines. Comme on n'a pas de moyens, rien du tout, j'appelle les viticulteurs que je connais parce qu'évidemment on ne peut pas mettre des sarments de Bordeaux en Bourgogne. Donc localement, on se fait donner des bouchons, des cèpes de vigne et on bricole, on fait du tricoté main. C'est et laborieux, c'est long, c'est passionnant, on a adoré.
Ça dure quelques années. Combien de temps avant que la marque décolle? Parce que finalement, c'est la communication, c'est le fait que... Et tu t'es occupé dès le départ aussi de la communication, faire connaître la marque. Raconte-nous... un peu comment ouais. ça a pris tout d'un coup, en fait.
Bertrand me dit, je suis allée voir ces pharmacies, ils sont intéressés parce qu'ils connaissent le professeur Vercotrenne. Souvent, c'était des élèves du professeur Vercotrenne. Ils croient en notre technologie. Par contre, ils ont énormément de marques à vendre. Et s'il n'y a pas de demande, ils ne référenceront pas nos produits. Donc, il faut absolument qu'on passe à la télé.
Et là, je me dis, le challenge de Mathilde.
Voilà. Là, je me dis, c'est bientôt les vendanges. Je vais appeler les France 3 régionales, qui sont encore puissantes dans les années 90. et puis leur dire que nous, bah, les pépins de raisin, après les vendanges, on va s'en servir pour faire quelque chose. Et là, j'ai décroché cette France 3 régionale, donc je crois toutes les régions viticoles de France. Et on a suivi le parcours du pépin qui va dans la distillerie, dont on va ensuite extraire les polyphénols, et puis ensuite qui vont être mis dans une crème. Et ça m'a permis d'écrire dans les vitrines vues à la télé. Ça a aidé. Ensuite, j'ai commencé à envoyer des produits à des mannequins, dont Carla Bruni, qui en a parlé dans Voici. Ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. Je suis allée voir toutes les journalistes pour leur porter les produits, bien évidemment. Elles étaient...
Quelle a été la réception, justement?
Elles nous ont beaucoup aidées. Elles étaient ultra enthousiastes.
Donc, début, voilà, tous les deux... L'entreprise commence à grandir, la communication évidemment, faire connaître le produit. Comment s'est structurée finalement l'entreprise petit à petit? Vous avez pu embaucher, comment s'est structurée l'équipe finalement?
Alors mon papa qui était vraiment notre mentor et qu'on appelait toutes les semaines pour lui demander des conseils, nous a donné des bons conseils, et dont un dont on se souvient, un sou que tu ne dépenses pas, tu n'as pas à le gagner. Donc on a été très précautionneux, et c'est vrai qu'on a commencé à embaucher vraiment quand on en avait les moyens. La première embauche, c'était un commercial sur le terrain pour ouvrir des pharmacies indépendantes. Ça s'est fait vraiment pas à pas. Et dès qu'on ouvrait plus de comptes, donc on gagnait plus de chiffres d'affaires, on en embauchait un deuxième, petit à petit.
Petit à petit, en France, mais... Petit à petit, c'est aussi l'international qui arrive, et notamment les États-Unis. Les États-Unis où vous allez vous retrouver sur une chaîne de le téléachat. Le téléachat. J'imagine que pour les Américains, ça faisait assez fantasmer de se dire que les Français buvaient du vin et qu'en plus, ils le mettaient sur leur peau, non ?
First time in America, they brought it to QVC. Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier, en 1997. Comme il y avait eu pas mal d'articles dans la presse, effectivement, on avait été contacté par un Parisien qui avait un copain à New York et qui avait vu ce produit et qui avait dit ça va faire un tabac aux US. Et donc on s'est retrouvé sur une chaîne de téléachat à vanter les mérites de nos polyphénols de pépins de raisin. Et ça a fait un carton. Je crois qu'on a vendu 10 000 produits en 5 minutes. On a fait le voyage que pour ça, mais ça valait la peine. Et puis, ça a commencé à nous faire connaître. Et oui, de fil en aiguille, on a ouvert des pays.
Et est-ce qu'il y avait quand même... Parce que ça, c'est une opportunité, c'est une chance aussi. Enfin, il y a plein de chances, hein, plein de moments de chance. Il faut la provoquer, la chance. Mais est-ce qu'il y avait, au départ, chez vous deux, cette idée de « on veut faire une marque mondiale qui soit connue dans le monde entier » Est-ce qu'il y avait déjà cette vision de long terme?
Non, quand tu as 23 ans, tu vois quand même pas très loin. Tu te dis, ça va être compliqué d'exister dans les pharmacies françaises où il y a déjà 800 crèmes. Comment est-ce qu'on va... Non, on voyait déjà la France et on essayait de se faire une petite place au soleil dans notre pays. Et après, on a été contacté effectivement par d'autres pays qu'on a ouvert. Un peu n'importe comment, si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Je n'irais pas ouvrir le Japon... en année 4, parce que c'est trop loin, trop cher, trop compliqué, et je ferai la politique de l'escargot, c'est-à-dire après la France, ben on tourne autour, on ouvre les pays européens, et puis on grandit de manière plus réfléchie, plus organique et plus locale.
Mais en tout cas, donc ça donne vraiment, les États-Unis, ça vous ouvre un peu un champ des possibles, qu'on peut finalement, entre guillemets, conquérir le monde. Alors déjà les États-Unis, 2010... on fait un petit saut dans le temps, 2010, vous décidez de partir aux États-Unis. Pourquoi partir à ce moment-là?
Parce que les États-Unis sont notre deuxième pays après la France, 10% de notre chiffre d'affaires. La France à l'époque, c'est 70-80% de notre chiffre d'affaires. Mais qu'on a une distribution complètement différente qu'on ne comprend pas. On est vendu chez Sephora là-bas, parce qu'on a refusé d'être vendu dans les pharmacies américaines qui sont finalement très bas de gamme. Ils vendent du Coca-Cola et des cigarettes, et c'est des supermarchés mass market. Donc on est allé chez Sephora, mais Sephora nous dit « vous comprenez rien, les petits Français, le marketing que vous faites n'est pas le bon, honnêtement, on n'a pas envie de garder la marque ». Et donc là, on se dit, on va se faire virer de Sephora, qui représente 70% de notre chiffre d'affaires. Et ben c'est une catastrophe, parce qu'on ne sera jamais une marque internationale. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'aller vivre là-bas pour comprendre.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez compris aux États-Unis et à New York notamment? Qu'est-ce qui va faire que la marque va finalement profondément se transformer du fait de cette expérience?
On a compris beaucoup de choses. On est arrivé à New York, on s'est dit, on va refaire la recette de ma grand-mère, on va faire du terrain. Donc je crois qu'on a dû, je sais pas, visiter 300 magasins en 5 ans. Et on est allé sur le terrain, on faisait ce qu'ils appellent les personal appearance, on allait vendre à nos clientes, on était vraiment sur le terrain, on se retroussait les manches et on essayait de comprendre comment ça se passait. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'on était trop français, pas assez internationaux, que nos packaging étaient trop verbeux, qu'il y avait trop de textes, qu'on ne comprenait pas que Caudalie venait du raisin, on ne comprenait pas les messages principaux et qu'il fallait écrémer et que moins mais mieux. Ça, c'était la première chose. On a compris que, à l'époque, on avait ouvert ce spa vinothérapie merveilleux en France. On n'avait pas ça aux États-Unis, donc on n'avait pas cet ancrage. Donc, il fallait qu'on ouvre des boutiques. Notre première boutique a été ouverte en 2012 à New York, sur Bleecker Street, pour avoir un ancrage, pour avoir de la presse, pour montrer ce qu'on savait faire de mieux, c'est-à-dire les soins avec les produits Caudalie, un peu comme un défilé haute couture. On a appris qu'il fallait raconter la beauté à la française. Moi, j'ai écrit The French Beauty Solution, qui est devenu un New York Times best-seller.
Et qui est traduit, là, on voit, on est donc dans ton bureau avec toutes les traductions dans toutes les langues du monde,
non,
ou presque.
Pas beaucoup,
enfin,
mais oui.
Un certain nombre.
Et on a appris que c'était pas facile comme marché, les US. C'était dur, mais qu'il fallait monter une équipe. Donc on a monté une formidable équipe sur place, ouvert des boutiques, écrit ce livre. Et puis on a fait un repackaging avec plus de raisins, moins de mots, des messages plus percutants. Et on a sauvé le truc. Sephora nous a gardés et nous a pas mis dehors.
Et aujourd'hui, le marché américain, il représente combien du total de vos ventes?
On n'a pas progressé. C'est toujours à peu près 10%. Mais ce qui a changé, c'est que la France représente un tiers. L'Europe hors France représente un autre tiers. Et l'Asie plus l'Amérique, un autre tiers.
Et puis, évidemment, les États-Unis, c'est aussi une nouvelle rencontre. Un professeur David Sinclair, donc professeur à Harvard. Et là aussi, c'est une nouvelle partie de l'histoire de Caudalie qui commence.
Alors, David Sinclair est un professeur extraordinaire. C'est un génie, c'est un gourou de la longévité. Il a été élu par Time Magazine comme une des 100 personnes les plus influentes des US. Il faisait partie de l'administration Obama et du pôle de chercheurs. Il travaillait avec la NASA. Il a écrit Lifespan, ce best-seller, où il a la conviction que vieillir est une maladie et qu'on peut la guérir. Il est très écouté, très reconnu. Nous, on le connaissait avec le professeur Vercotren depuis les années 2000, puisqu'il publiait dans des revues scientifiques de type Nature. Et ses publications étaient marquantes, innovantes. Donc on voyait ce jeune Australien à Harvard Medical School et on se disait, c'est extraordinaire, toutes les études qu'il fait. Il avait fait des études sur des centaines de molécules et il en avait conclu qu'une des molécules les plus intéressantes pour lutter contre le vieillissement était le resveratrol. Donc c'est pour ça qu'on le connaissait. Et donc quand j'ai déménagé à New York, j'ai pris un train pour Boston, je suis allée déjeuner avec David Sinclair, je lui ai raconté ce qu'on faisait. Coup de chance, sa femme mettait Caudalie, connaissait vaguement Caudalie. Et il a adoré notre histoire, notre recherche. Il a trouvé qu'on était ultra sérieux. Et c'est comme ça qu'on a lié un contrat de collaboration longue durée depuis 2013 avec Harvard. Ça fait 8 ans qu'on bosse avec eux.
Alors, ça veut dire quoi, un contrat de collaboration avec Harvard?
Ça veut dire qu'on a... On finance son laboratoire et on a un salarié dans son laboratoire à plein temps. Donc on fait de la recherche fondamentale avec Harvard. Par exemple, la dernière gamme Caudalie qu'on a lancée, qui s'appelle Resveratrol Lift, elle contient un brevet qui vient de Harvard Medical School, c'est écrit sur le dessus d'ailleurs. Donc comment ça se passe? On fait de la recherche avec lui, il nous dit « ça pourrait être intéressant de travailler sur... le resveratrol associé à de l'acide hyaluronique, parce que j'ai vu quand je faisais des tests sur les gènes que le resveratrol boostait l'acide hyaluronique qu'on a naturellement dans la peau. Donc on fait cette association, il reteste sur ces dizaines de milliers de gènes et il s'aperçoit que effectivement ça multiplie par deux notre acide hyaluronique. Et puis on se rend compte, en fait, il travaille vraiment avec notre laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire qui lui est dans la Cosmetic Valley vers Orléans. Et ensemble, on fait des allers-retours et on arrive à trouver des nouvelles molécules qu'on co-brevette et qu'on met dans nos produits.
Donc évidemment, ça a donné un autre souffle, un nouveau souffle au développement de la marque Caudalie. Donc ça, c'est les États-Unis. Et puis, après New York, vous partez en Asie. Alors, le marché asiatique est un marché, là aussi, qui est quand même assez... Enfin, ça dépend des endroits, mais si on parle du marché coréen, la cosmétique est extrêmement développée. C'est pas là que vous allez à Hong Kong. Ouais. Avec quelle ambition, pourquoi est-ce que là, il y avait déjà aussi des ventes Caudalie qui commençaient à se développer? Vous vous êtes dit, il faut y aller, il faut connaître l'Asie?
On a rencontré le general manager d'Estée Lauder qui nous a dit « Mais ne perdez pas votre temps aux US. Maintenant, ça fait 4 ans que vous y êtes. Vous avez compris qu'on est des dieux du marketing, qu'on sait très bien positionner les produits, très bien parler des produits. Vous avez ouvert des boutiques. On est bon en retail, mais ce n'est pas là que ça se passe. Si vous voulez vraiment devenir une marque internationale, comme nous, Estée Lauder, c'est en Asie qu'il faut aller. » Et effectivement, l'Asie, c'était l'Eldorado. Alors l'Eldorado, pas facile, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Chinois. Et ils étaient ultra intéressés par cette marque à base de pépins de raisin française. Donc on a ouvert Sephora là-bas. Et puis on a ouvert Tmall, qui appartient à Alibaba et qui distribue toutes les marques de cosmétiques. Et c'est très intéressant, puisque les Chinois n'ont pas les mêmes problèmes de peau que nous. Ils n'ont pas de rides. Mais par contre, ils sont très sensibles aux taches. Dès qu'ils prennent le soleil, leur peau se tache. Ils ont des peaux qui sont plus épaisses, donc ils vieillissent mieux que nous. Mais par contre, il faut qu'ils les protègent vraiment du soleil. Et puis, il faut vraiment qu'ils fassent attention aux taches. Et nous, on est depuis 2008 numéro 1 des produits anti-taches dans les pharmacies en France. Donc on est rentré avec notre cheval de Troie, qui est le sérum anti-taches VinoPerfect. Ça a bien fonctionné. Enfin, ça fonctionne toujours bien.
Qu'est-ce que tu as appris de la consommatrice asiatique, au-delà de la spécificité de sa peau? Elle est comment par rapport à la française, par rapport à l'américaine? Enfin, c'est intéressant, j'imagine.
Il n'y a pas une consommatrice asiatique. C'est comme si tu me dis que la consommatrice européenne, l'allemande est différente de l'italienne, de la française, de l'anglaise, de la portugaise, de la suisse. La coréenne est la plus sophistiquée. Elle est capable de se mettre 15 couches de produits matin et soir, de passer 40 minutes dans sa salle de bain le soir pour se démaquiller en profondeur. Mais c'est vrai qu'elles ont une peau de porcelaine extraordinaire. La hongkongaise est différente de la japonaise, qui est différente de la chinoise. Elles ont toutes des attentes différentes et une manière de consommer les produits différentes. Donc j'appréhende maintenant mieux le marché asiatique. Et puis j'ai appris des choses de mes concurrents. La Corée, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour une marque de cosmétiques. Ils sont très créatifs, ils inventent des produits complètement loufoques. Ils sont forts.
Qu'est-ce que tu as appris d'autre de l'Asie et la Corée? Tu parles de la Corée, c'est vrai que c'est un marché cosmétique très sophistiqué. S'il y avait une chose à retenir de l'Asie, votre séjour en Asie et à Hong Kong?
Qu'ils sont ultra déterminés à réussir, qu'ils sont ultra rapides et qu'ils sont très forts. Et qu'on n'a aucune chance. Ils sont vraiment forts.
Ça nous rassure.
C'est des gros bosseurs. Ouais.
Ça nous rassure.
Donc il va falloir travailler dur.
Aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de développement pour Caudalie, avec une accélération de ce côté clean beauty. Vous parlez aujourd'hui de cosmétique, mais éthique, hein, cosme et éthique, l'éthique. Mais j'ai envie de te dire, c'est une histoire ancienne pour vous, finalement. Vous avez, c'est depuis le début de la marque, vous êtes dans la clean beauty. 2012, vous avez aussi décidé de reverser le 1% pour la planète. Enfin, vous êtes complètement dans cette dimension-là. Vous allez aller encore plus loin aujourd'hui?
C'est vrai qu'on était les pionniers de ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle la clean beauty, en enlevant de nos formules parabènes, phénoxyéthanol, phtalates, sodium lauryl sulfate, ingrédients d'origine animale, fin des années 2005. Je me souviens présenter ça à la presse new-yorkaise et ça ne les intéressait pas, alors qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est hot aux États-Unis. Donc, on était pionniers de la clean beauty. Il y avait 6 ingrédients qu'on bannissait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une liste de 60 ingrédients qu'on bannit de nos formules, soit parce que ce sont de potentiels perturbateurs endocriniens, soit parce qu'ils sont irritants pour la peau, soit parce qu'ils ne sont pas clean pour la planète, c'est-à-dire pas hautement biodégradables ou à base d'ingrédients d'origine animale ou à base d'ingrédients dérivés de la pétrochimie, comme la vaseline, la paraffine, les huiles minérales. Donc, on est leader sur la clean beauty et ça, j'en suis super fière. Mais on va plus loin que ça, on est aussi... Moi, je suis en train de transformer la marque pour pouvoir dire que les formules contiennent entre 95 et 100% d'ingrédients d'origine naturelle, maintenant qu'il existe un standard qui le mesure. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et puis, j'essaye d'avoir des packagings qui sont zéro déchet, soit recyclés, en matériaux recyclés, soit recyclables, soit rechargeables. Je me suis mis comme objectif 2022. Aujourd'hui, j'y arrive avec tout ce qui est flacons en verre, tubes plastiques, étuis en papier. Les seules choses qui me posent encore des problèmes, c'est ce qui est multimatériaux, c'est-à-dire les pompes. Et pour ça, on a signé un partenariat avec TerraCycle dans nos boutiques où on est capable de recycler n'importe quoi, mais encore faut-il ramener les produits à recycler.
Donc ça veut dire que d'ici 2022, tous vos produits vont être... un peu, entre guillemets, réinventé. En tout cas, on va aller vers encore plus de clean beauty. C'est le cas, par exemple, là, je vois sur ta table l'un de tes produits phares, Vino Perfect, c'est ça aussi ? Enfin, ça a été complètement repensé ?
Oui, on a démarré la révolution Caudalie en septembre dernier avec notre gamme phare Resveratrol Lift. Qu'on a effectivement repensé, plus efficace, avec un nouveau brevet Harvard, des meilleurs résultats cliniques, plus clean, en enlevant les pegs, les silicones, les microplastiques, donc cette liste de 60 ingrédients qu'on bannit, plus naturel, des formules au-delà de 97% d'ingrédients d'origine naturelle, et des packagings 100% recyclables. Et on s'attelle à toutes les gammes visage cette année, en 2021, et en 2022, on améliore toutes les gammes corps de Caudalie. Donc oui, Vino Perfect va sortir en avril-mai et il sera encore plus efficace, encore plus clean, encore plus naturel et puis éco-responsable.
Alors un mot parce que, donc, encore une fois, pionnière dans ce domaine de la clean beauty, j'imagine que tu regardes avec intérêt toutes ces nouvelles marques qui se lancent. On en voit beaucoup au sein de Business au Féminin qui arrivent chez nous, qui nous parlent de leurs nouveaux projets, produits, etc. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur cette nouvelle génération d'entrepreneurs, femmes et hommes, qui sont sur ce domaine-là de la clean beauty avec des produits cosmétiques ?
Ils ont tout juste. C'est exactement comme ça qu'il faut aborder la beauté. Il faut des produits, des formules qui soient saines, il ne faut évidemment pas de potentiel perturbateur endocrinien dans les formules, il faut être à la fois propre pour la peau mais propre pour la planète, pas irritant, donc ils ont tout juste. Certaines font aussi attention au packaging, ce qui est obligatoire en 2021. Je pense qu'il faut qu'on aille vers un zéro plastique et évidemment vers un zéro déchet. Il faut que ces entreprises sont souvent carbone neutre, ce qui est fantastique. Pas qu'elles oublient l'innovation et l'efficacité. Souvent, elles sont tellement parfaites, elles cochent tellement toutes les cases du clean, du naturel, de l'éco-responsabilité, que parfois, elles oublient un peu l'innovation. Donc, je trouve qu'elles sont remarquables, mais moi, j'achète un produit cosmétique pour résoudre un problème. Soit j'ai des taches, soit j'ai des rides, soit je manque d'hydratation, soit j'ai des boutons. Et c'est ce que je veux faire avec Caudalie. Je veux devenir... Enfin, je suis numéro 1 de l'antitache et de l'antiride dans les pharmacies en France, mais demain, je veux m'attaquer... aux boutons, je veux m'attaquer à l'hydratation, je veux m'attaquer au raffermissement du corps, je veux des produits qui résolvent des problèmes.
Donc l'innovation au cœur.
L'innovation est pour moi essentielle et ça doit être au sommet de la pyramide. Ces jeunes marques sont parfaites, mais où est l'innovation ?
C'est entendu. Vous êtes, depuis le départ, très attaché à votre indépendance. J'imagine que vous avez eu quelques grands groupes qui sont venus frapper à votre porte pour vous dire « on aimerait bien vous racheter ». Enfin, je n'ai pas d'infos, mais j'imagine. Comment vous voyez l'évolution de la marque ? Est-ce que ça va rester familial ? Enfin, comment vous imaginez la suite, ces 10, 15 prochaines années ?
Écoute, on gère bien depuis 25 ans, ce qui nous permet de rester indépendants, ce qui est notre plus grande liberté. Et oui, on a été approchés, mais les concurrents savent qu'on a la volonté de devenir une grande marque, grande belle marque indépendante. Donc non, on souhaite le rester.
Alors je voudrais qu'on aborde cette dernière partie d'entretien pour parler un peu de la Mathilde Thomas intime. 26 ans d'une vie consacrée à construire une marque comme Caudalie. Est-ce que déjà vous feriez les choses différemment ? Parce que c'est vrai qu'il cette histoire, hein, cette histoire familiale de génération, vous entreprenez en couple. Justement, comment vous avez résisté finalement à tout cela, tous les deux ? Parce que ça ne doit pas être évident tous les jours d'être aux commandes d'une marque comme Caudalie.
Alors j'avais la chance d'avoir des grands-parents qui travaillaient ensemble, des parents qui travaillaient ensemble. Nous ont donné quelques règles, il ne faut pas empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Chacun est maître dans son domaine. Donc c'est vrai que Bertrand ne m'embête pas avec le développement produit. Alors évidemment, si je fais un produit qui ne marche pas, il ne va pas être content. Mais il respecte et j'ai toujours le dernier mot dans mon domaine, alors que lui est chef sur tout ce qui est le reste, le commercial, la stratégie, les finances.
Donc une bonne répartition des tâches.
Ouais, ça c'est la base. Ensuite, il ne faut pas trop parler de Caudalie, pas trop amener les problèmes à la maison, parce que ce n'est pas bon pour les enfants.
Pas forcément évident ça.
Surtout pour les femmes, c'est compliqué. C'est beaucoup plus dur pour moi que pour lui. Lui, il coupe, il est impeccable, donc j'apprends toujours. Mais bon, avec 3 ados à la maison, c'est plus possible de parler de Caudalie à la maison. Donc on fait très attention. Est-ce qu'on ferait les choses différemment ? On a ouvert trop de pays, trop loin, trop vite. On se concentrerait peut-être sur la France, plus. Ouais, ce serait le conseil que je donnerais à quelqu'un qui démarre. De ne pas ouvrir tous azimuts, de ne pas aller au Japon trop vite.
Et qu'est-ce que cette expérience entrepreneuriale qui continue t'a-t-elle appris sur toi ?
Que tu peux déplacer des montagnes quand tu es passionné. Et que c'est important de choisir ta vie et de choisir un métier que tu aimes vraiment parce que ça change tout.
Alors, cette histoire de Caudalie, c'est une histoire de rencontre. C'est une histoire, je parlais tout à l'heure de chance. Est-ce que c'est un terme qui te plaît ou que dirais-tu là-dessus ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des étapes qui ont été franchies finalement. On a l'impression qu'il n'y a pas eu d'embûche majeure.
Il y en a eu plein. On a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. L'important, c'est de les faire qu'une fois. Mais si, on a fait...
Quelle est la qualité principale, peut-être, pour entreprendre ?
Bien sûr qu'il faut avoir de la chance. C'est important. Donc, plus je regarde cette aventure Caudalie qui a commencé il y a plus de 25 ans maintenant, plus je me dis que, bien sûr qu'on a eu beaucoup de chance. Après, on était déterminés. Souvent, les entreprises qui n'arrivent pas à grandir ou qui se font racheter, c'est parce qu'il y a un problème d'associés. C'est parce que les associés se séparent, ne s'entendent pas. Donc, je pense qu'avoir des actionnaires stables, ça change beaucoup de choses. Il y a un fil rouge quand même dans Caudalie. Il y a une patte, il y a une culture d'entreprise. Et ça change beaucoup de choses.
Et puis, oui, c'est vrai que c'est une histoire de famille. C'est aussi Bordeaux, Caudalie, le spa qui est géré par ta sœur et ton beau-frère. Enfin, ça, c'est une marque qui se développe tout azimut. Et puis, évidemment, il y a le vin, mais ça, c'est tes parents. Ouais. Donc, il y a tout un écosystème, finalement, vertueux.
Écoute, il y a tout un écosystème vertueux et il y a des grandes synergies. Effectivement, mes parents font un vin Smisso Lafitte magnifique qui transforme en bio là, depuis plusieurs années. Ils font un travail remarquable. Ma sœur s'occupe des sources de Caudalie, ce palace étoilé au milieu des vignes et puis vient d'ouvrir les sources de Cheverny. Nous, on a créé et on a gardé ce spa parce que c'est vraiment notre laboratoire et ça nous a permis d'essaimer des boutiques dans des villes de France. On va en ouvrir encore d'autres. Il y a Lille qui va ouvrir, il y a Rennes qui va ouvrir, où on met toujours 2 cabines de soins. Donc les thérapeutes de notre spa de vinothérapie sont formés à Bordeaux et puis ensuite vont à Rennes, à Lille, à Nantes. devenir des linothérapeutes pour la boutique Caudalie. Et ça fonctionne très bien.
Alors, l'écosystème Caudalie, donc on n'en sort pas, c'est une histoire familiale, mais est-ce qu'il y a des moments, enfin, comment te ressources-tu? Parce que est-ce que tu vis matin, midi et soir, Caudalie? Non. Est-ce que tu as des moments de pause et quels sont-ils? On a envie de connaître aussi les secrets des entrepreneurs.
On sait que si on veut rester indépendant, il faut qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait. On sait que ce n'est pas un sprint, mais que c'est un marathon. D'ailleurs, ça dure depuis 26 ans. On sait que la plupart des entrepreneurs, ils montent une boîte ultra rapidement. Ils ont déjà leur stratégie de sortie. Et nous, on n'est pas du tout dans cette mentalité. Donc, écoute, il faut des bonnes vacances, il faut de bons loisirs et il faut une vie équilibrée. Je pense que c'est le cœur du succès de Caudalie. Donc, j'ai un mari qui est passionné de cuisine, de guitare, qui a plein de jardins secrets, des enfants sympas. Les enfants sont même au cœur de notre vie.
Tes jardins secrets?
Écoute, moi, je lis beaucoup, je me balade avec mon chien, j'adore partir faire de la montagne, skier, faire du sport. J'en ai plein.
Alors justement, tu parlais de livres. Ton livre de chevet en ce moment?
Celui que je lis en ce moment, c'est The Push. C'est un livre en anglais. C'est pas mal, je vous le conseille.
Est-ce qu'il y a une entrepreneur ou un entrepreneur qui t'a inspiré dans ton parcours entrepreneurial?
J'aime bien citer ma grand-mère paternelle parce qu'elle était incroyable. Elle a travaillé alors que les femmes étaient mères au foyer. Elle s'est associée à son mari. Elle a ouvert ce supermarché à Saint-Martin-du-Riage. Et puis ensuite, elle a ouvert un supermarché à Grenoble. Elle était vraiment les mains dans le cambouis. Elle travaillait du matin au soir. Grosse bosseuse. Elle passait à serpillière dans ses magasins à la veille de l'ouverture. Elle était au four et au moulin. Je l'ai toujours vue ultra opérationnelle. En même temps, en bonne savoyarde, les pieds sur terre. Donc, ouais, elle m'a beaucoup inspirée.
C'est Mathilde Thomas aujourd'hui. Pour terminer, Mathilde, ta devise, est-ce qu'il y a quelque chose, une devise que tu as on a compris qu'il y avait cette dimension travail qui était hyper importante dans la réussite de quoi que ce soit, mais une devise, quelque chose qui...
Je suis assez fonceuse. Je pense que dans la vie, il ne faut pas se poser trop de questions, sinon on ne s'en sort jamais. J'aime bien « just do it » et j'aime bien sauter à l'eau et puis tu apprendras à nager après. Tu te débrouilles, quoi. Tu gères.
Merci beaucoup, Mathilde Thomas, d'avoir été l'invitée de Power Girl.
Merci beaucoup, Véronique.
Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au Féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessauféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.